Merci pour ces nouvelles très récentes. Revenons à notre revue de 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Surtout ne rien décider, c'est le titre du livre de notre invité ce samedi, Pierre Conessa, spécialiste des questions internationales et de défense, maître de conférences à Sciences Po. Il s'intéresse donc aussi à la politique française puisque cet ouvrage publié chez Robert Laffont lui est consacré avec ce sous-titre « Manuel de survie en milieu politique ». Dans un instant, nous prendrons la direction de l'Afrique, rendez-vous également avec vos messages. Mais d'abord, la France, justement, avec bien sûr les révélations du site d'information Mediapart sur les écoutes de Nicolas Sarkozy et de son avocat. Explication de Léa Ticlette.
Les écoutes publiées par Mediapart concernent notamment la demande d'annulation de la saisie des agendas de l'ancien président qui révélerait des rendez-vous avec la milliardaire Liliane Bettencourt. D'après ces écoutes, Gilbert Azibert, magistrat à la Cour de cassation, s'est renseigné sur les tendances de cette cour dans la procédure. On entendrait même l'avocat de Nicolas Sarkozy se féliciter du dévouement de l'informateur qui, je cite, a bossé. L'avocat Maître Herzog est donc optimiste quant à l'annulation de la saisie, sauf, dit-il, si le droit finit par l'emporter. D'après une autre écoute, le haut magistrat, l'informateur du camp Sarkozy, aurait eu accès à l'avis de la Cour de cassation qui conclut à une annulation et à un retrait de toutes les mentions faites aux agendas de Nicolas Sarkozy dans la procédure. Ce qui va, c'est un commentaire de l'avocat, faire du boulot à ces bâtards de Bordeaux. Il parle des juges en charge de l'affaire Bettencourt. En échange, Mediapart l'affirme, Nicolas Sarkozy était prêt à aider son fidèle informateur à obtenir un poste à Monaco. Son avocat dit avoir été rassurant à ce sujet, je cite, « Tu rigoles avec tout ce que tu fais ?» Ce sont ses mots.
On le disait tout à l'heure, Pierre Conessa, c'est peu de dire que le climat est lourd en France avec cette multiplication d'affaires. Attention aux tous pourris à la veille d'un scrutin municipal, Florent Guignard.
L'affaire Copé, les enregistrements de Patrick Buisson, les écoutes judiciaires de Nicolas Sarkozy et ce qu'elles révèlent, le jour même de la confrontation entre Christine Lagarde et son ancien directeur de cabinet dans l'arbitrage Tapie Adidas, on n'a sans doute jamais autant parlé des affaires dans une campagne électorale. Alors quelle influence sur le scrutin? À qui profite le crime? Personne n'ose émettre le moindre pronostic. Tous les élus de gauche ou de droite vous le disent. On leur parle peu des affaires quand ils sont sur le terrain. Et ceux qui m'en parlent, raconte un député socialiste, je devine qu'ils votent Front National. C'est une vraie crainte exprimée notamment à gauche, celle de l'amalgame entre le flot quasi quotidien des révélations et les contre-feux allumés par la droite. Les électeurs n'y comprennent plus rien, se lamente un élu, et ils pourraient être tentés de mettre tout le monde dans le même sac. Pour le plus grand bonheur du Front National, le feuilleton Sarkozy n'est sûrement pas fini et le climat tous pourri a encore de beaux jours devant lui.
Notez aussi que mardi, la CGT et Force ouvrière et FO ont manifesté contre le pacte dit de responsabilité, c'est-à-dire l'allègement des charges des entreprises.
7 jours en France.
Moins d'une semaine après la première condamnation à Paris d'un génocidaire rwandais, la justice française a inculpé un médecin installé en France pour son rôle présumé dans des massacres commis il y a 20 ans à Kibuye, dans l'ouest donc du Rwanda. Le docteur Charles Twagira, un Rwandais qui a obtenu la nationalité française, a été mis en examen jeudi pour génocide et crimes contre l'humanité lors du génocide précisément de 1994 qui, je le rappelle, dois-je le rappeler, en 100 jours environ a coûté la vie à quelques 800 000 personnes, principalement des Tutsis. Franck Alexandre.
C'est à Vire, dans le Calvados, qu'il a été arrêté en début de semaine. Charles Twagira, médecin, s'était installé en Normandie il y a 8 ans. Au Rwanda, pendant le génocide de 1994, le docteur Twagira était une personnalité dans la préfecture de Kibuye, où il exerçait d'importantes fonctions, responsable régional pour la santé. Au moment des massacres, Charles Twagira s'est-il comporté en chef des milices Interahamwe? L'intéressé s'en est toujours défendu, affirmant qu'il n'était pas un militaire et qu'à l'hôpital, il n'a fait que son boulot de médecin. Mais cette mise en examen pour génocide prouve que la justice s'intéresse très sérieusement à son parcours, un parcours dévoilé par Alain Gauthier du collectif des partis civils pour le Rwanda. Alain Gauthier a recueilli les témoignages de miliciens repentis. Il y a aussi le témoignage d'un médecin allemand de l'hôpital de Kibuye, Wolfgang Blam. Ce médecin accuse Charles Twagira d'avoir donné des ordres aux milices pour qu'elles viennent exécuter des Tutsis réfugiés à l'hôpital, à commencer par la famille du directeur qui fut massacré. Si le docteur Twagira n'est pas sur la liste des génocidaires les plus recherchés, les questions à son sujet ne manquent pas. Il fait partie des 27 Rwandais poursuivis par le pôle génocide de Paris.
On va commencer avec ça, Pierre Conessa, cette nouvelle mise en examen d'un Rwandais vivant à Paris, présumé coupable d'une participation dans le génocide, vous inspire un commentaire ?
Écoutez, moi j'étais au ministère de la Défense dans les années 92-97, à l'époque aux directions des affaires stratégiques.
Alors vous étiez donc au premier plan pour...
J'étais au premier plan, mais alors surtout, parmi les sujets auxquels je m'intéressais, je m'étais posé la question en décembre 93 de ce qu'on faisait au Rwanda. C'est-à-dire, c'était 6 mois avant le génocide. Et j'avais donc écrit un papier qui était une interrogation qui s'appelait « Plaidoyer pour un réexamen de la politique française au Rwanda ». Qui était en gros que je comprenais pas quand on m'expliquait que c'était une position stratégique, que les Anglais voulaient reprendre le Rwanda, enfin bref. Je m'étais fait engueuler par le cabinet militaire qui m'avait dit « Mais quand on connaît pas une situation, on n'en parle pas bon. ». Peu de temps après, il y avait un rapport de la FIDH, hein, qui était un rapport d'inspection sur les massacres précédents.
Fédération
internationale des droits de l'homme, qui avait donc expliqué qu'elle n'avait pas pu aller inspecter dans les zones tenues par les Tutsis, mais qu'elle avait relevé quand même des massacres commis par des responsables Hutus, notamment ces missiles Interahamwe. Et donc, elle en avait fait une conférence de presse à laquelle j'avais envoyé une de mes collaboratrices. Et le Karboran Naré, qui était l'homme responsable de la FIDH, lui avait expliqué qu'il avait essayé de le déposer à l'Élysée et d'en discuter, qu'on le lui avait refusé. Bon. Or, 6 mois plus tard, explosait le génocide. L'ambassadeur en place, au début du génocide, expliquait que c'était des rumeurs. Ce qui est gênant dans un télégramme diplomatique, le terme était particulièrement mal choisi. Oui. Bon. Or, tous les indicateurs montraient que quelque chose d'extrêmement raciste était en train de se mettre en place. Quand on lisait ce fameux texte qui s'appelait « Les 10 commandements du Bahutu », c'est-à-dire les 10 commandements que doit respecter texte qui a été repris par les radios Mille Collines, etc., on ne pouvait pas ne pas se rendre compte qu'il y avait un massacre qui allait se préparer. Bon. Et en fait, tous les indicateurs qui étaient les indicateurs auxquels l'administration devait prêter attention pour constater éventuellement qu'il y aurait quelque chose qui exploserait étaient éteints. C'est-à-dire que ça ne remontait pas à l'Élysée. Pourquoi ? Parce que l'Afrique à l'époque, et j'espère que ça n'est plus aujourd'hui, n'était pas une affaire d'administration, c'était une affaire de réseau. C'est-à-dire qu'on avait beau écrire ce qu'on voulait, la question c'était qu'est-ce que décide l'Élysée ? Vous connaissez malheureusement la suite de l'histoire. Donc, le fait qu'on arrête 20 ans après quelqu'un qui s'est réfugié en France, d'abord montre que quand même c'était plus facile d'arriver en France quand on était Hutu, quand on était Tutsi. Et puis rappelez-vous que Madame Habyarimana, quand elle est arrivée ici, et Dieu sait qu'à ce point-là, tous les gens qui regardaient le massacre savaient qu'elle était directement responsable d'un certain nombre de ces milices, a reçu de l'argent liquide de la part de la mission militaire de coopération pour pouvoir s'installer en France. Donc je veux dire, dans le genre de l'ignominie, c'est difficile d'aller plus loin. Donc vous comprenez qu'à l'époque, moi j'avais quand même trouvé la facture un peu sèche quand même, et encore une fois, que le champ des responsabilités n'avait jamais été étudié. Pour terminer là-dessus, la France est le seul pays qui ne s'est jamais livré à un exercice d'investigation parlementaire, puisqu'on a limité la mission parlementaire à un rapport d'information.
C'est ça. Non,
voilà. Bon. J'arrête là. C'est triste, mais j'arrête là.
Les commentaires et ce silence, cette ponctuation est éloquente. Merci pour ces précisions, Pierre connaît ça. Et si on reparlait donc de ces affaires, là, on change totalement de registre. Aujourd'hui encore, toute personne qui me téléphone doit savoir qu'elle sera écoutée, écrit Nicolas Sarkozy dans un article publié hier vendredi dans le Figaro. Vous lisez bien, ce n'est pas un extrait du merveilleux film La vie des autres sur l'Allemagne de l'Est et les activités de la Stasi. Il ne s'agit pas des agissements de tels dictateurs dans le monde à l'endroit de ses opposants, il s'agit de la France. Cette comparaison n'est pas passée inaperçue. Hein.
Oui, cette comparaison n'est pas passée inaperçue. Bon, on sent que Nicolas Sarkozy n'a jamais vécu dans une dictature, sinon il saurait que la police politique, c'est pas ça. C'est pas seulement les écoutes, quand même. C'est les tortures, c'est les arrestations arbitraires, etc. Bon. Donc, leur comparaison est particulièrement maladroite.
Les écoutes demandées par la justice.
Oui, oui, dans les écoutes, un cadre encore une légal, fois, sous la responsabilité d'un juge d'instruction. Bon, d'autre part, rappelez-vous quand même que la période Mitterrand a été marquée également par des écoutes totalement illégales. Oui. Et une des cibles, d'ailleurs, de ces écoutes était déjà Edwy Plenel. Donc, on peut comprendre que la presse soit particulièrement friande aujourd'hui de révéler toutes ces pratiques, qu'elles soient légales ou qu'elles ne soient pas, mais qui font que la réglementation des écoutes en France est encore très très mal réglementée par les textes. Et alors, pour le cas de l'article de Nicolas Sarkozy, bon, effectivement, je comprends sa logique.
Ce que je veux dire aux Français, nous l'avons sous les yeux, là, 2 pages dans le Figaro d'hier.
2 pages, oui, qui est une contre-attaque de victimisation, c'est-à-dire montrant qu'il est l'objet de toutes les attentions du pouvoir en place pour l'écarter de la vie politique, enfin pour montrer qu'il est le pire des turpitudes. Je crois que quand on est un citoyen comme moi sans engagement politique, bon, on a quand même du mal à accepter tout ce que les écoutes ont révélé, c'est-à-dire le fait qu'on sollicite l'avis et même l'investigation d'un membre de la plus haute des juridictions judiciaires françaises, le fait qu'un avocat soit écouté alors qu'il sait qu'il commet une illégalité, etc. Donc, je veux dire, ça a quelque chose de très gênant parce que ces réactions corporatistes, encore une fois, disant les avocats ne doivent pas être écoutés, le président de la République ne doit pas être écouté, laissent l'impression à des citoyens français, encore une fois, qu'il y a des justiciables de différentes natures.
Alors l'avantage et avantage il y a dans ce genre d'affaires, c'est qu'elles font éclater totalement la communication qui protège les hommes politiques. Et vous écrivez même que cette communication est le couteau suisse de l'inaction politique.
Ah oui, absolument. Oui. Je suis de plus en plus convaincu que la vie politique française est guidée par ce que les journaux racontent, enfin par l'avis des journalistes. Et donc on ne se guide pas en fonction de ce qu'on pense être l'intérêt futur de la France, mais la façon dont on gagne la bataille de la communication pour gagner les élections suivantes. Ce qui me paraît particulièrement malsain. Et alors la communication est devenue effectivement un couteau suisse parce qu'on va l'utiliser à toutes les sauces, on va faire des sondages d'opinion. Sarkozy était particulièrement champion en la matière. Moi j'en fournis un gratuit, donc ils peuvent tous l'utiliser.
On en reparlera tout à l'heure.
On en reparlera si vous voulez.
Dans un jeu.
Oui, dans un jeu, oui. Parce qu'encore une fois, si vous voulez les sondages, c'est très bien, mais on sait très bien que si on est rentré dans une démocratie sondagière. Voilà.
On ne vote plus ?
Ben écoutez, mais encore une fois. Si on avait demandé aux Français en 40, est-ce que vous voulez le maréchal Pétain, ils auraient dit oui.
Une semaine d'actualité.
Et il nous faut d'abord, Pierre Connaissat, revenir sur le voyage du président du Sénégal, Macky Sall, en Casamance, ce territoire en proie à une rébellion indépendantiste depuis une trentaine d'années. Objectif, accélérer le développement économique de la région. Reportage de notre correspondante Karine Franck.
Ambiance de fête à l'arrivée du président Macky Sall, c'est pour lui souhaiter la bienvenue.
Vraiment, les gens se sont mobilisés parce que ça a venu ici. Ça provoque beaucoup d'espoir.
D'habitude, les présidents viennent pour quelques heures seulement. Lui, il vient pour 3 jours. Cela veut dire qu'il est sincère.
Cette visite, vraiment, ce n'est pas du folklore. Il vient pour travailler. Et le fait que Salif Sadio et le MFDC soient d'accord pour aller à la négociation, déjà, c'est un grand pas pour nous. Et maintenant, il annonce son plan de développement et on y croit fermement.
À la tribune, place Aline Sito-Ediata, Macky Sall lance son projet de pôle de développement de la Casamance, appui à la production agricole, le riz, les mangues, construction d'écoles, de routes et de ponts, réhabilitation des hôpitaux de Ziguinchor et de Sédiou, l'occasion également de réaffirmer son engagement en faveur de la paix. Macky Sall.
Je propose à tous, sans exclusive, la paix des braves, sans vainqueurs ni vaincus, pour le bénéfice de tous. Osons résolument la paix. Je suis totalement engagé pour la Casamance, sa stabilité et sa prospérité dans un Sénégal uni et indivisible.
L'actualité africaine, c'est aussi la décision de la Côte d'Ivoire jeudi d'accepter le transfèrement de Charles Blegoudé, un proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, à la Cour pénale internationale qui le poursuit pour crime contre l'humanité. À noter aussi qu'un demi-millier d'immigrants subsahariens ont pénétré ce mardi dans l'enclave espagnole de Melilla, franchissant la frontière depuis le Maroc lors de l'assaut le plus massif depuis 2005 dans cette ville. Suite d'une semaine en Afrique, Pierre Connaissat, je vous vois très attentif, prenant des notes même. En Afrique du Sud, où le président Jacob Zuma est désormais prié de rembourser les sommes investies dans quelques travaux dans sa maison. Ainsi, on a décidé un rapport rédigé par la médiatrice chargé de veiller à la bonne gestion des fonds publics. Ces travaux auraient coûté 16 millions d'euros. Correspondance jeudi d'Alexandra Branjon.
Les dépenses engagées par l'État vont au-delà de ce qui était raisonnablement nécessaire pour la sécurité du président. C'est la conclusion de la médiatrice Toulima Doncella. Dans son rapport, la médiatrice a relevé qu'un certain nombre d'aménagements n'ont rien à voir avec la sécurité du président Zuma. Par exemple, un centre d'accueil des visiteurs, un amphithéâtre, un enclos pour le bétail, un poulailler ou encore une piscine. Plus généralement, la médiatrice a jugé exorbitant ces travaux de plus de 16 millions d'euros payés par le contribuable. La médiatrice s'est toutefois bien gardée d'accuser directement le président. Elle a indiqué ne pas avoir de preuves qu'il avait lui-même sollicité ces travaux ou qu'il en avait été informé. En revanche, elle l'accuse d'avoir violé le code éthique qui l'engage à ne pas gaspiller l'argent public. Elle recommande qu'il rembourse une partie des travaux, qu'il prenne des sanctions à l'encontre des ministres responsables de ces excès. Le président a 2 semaines pour rendre des comptes au Parlement.
Sachez également que l'Arabie Saoudite continue à expulser des milliers de Somaliens dans le cadre de sa politique de répression contre les travailleurs immigrés et illégaux. Depuis décembre 2013, ils sont plus de 26 000 à avoir été chassés du territoire et rapatriés en Somalie. Suite et fin d'une semaine d'actualité en Afrique, en Algérie, Pierre Conessa, les réactions politiques divergent après la publication jeudi dans la presse d'une déclaration de l'ancien président Lamine Zeroual. Pour le candidat Ali Benflis, cette prise de parole est un sursaut démocratique, mais pour le chef des islamistes, Abdel Razak Makri, l'ancien président soutient le système, malgré ses critiques, puisqu'il appelle à voter. Dans la lettre, pourtant, Lamine Zeroual est très virulent contre Abdelaziz Bouteflika, correspondance de Leïla Berato.
Il avait pourtant répété qu'il ne prendrait pas la parole, que son temps était passé et qu'il fallait laisser la place à la génération suivante. Mais Lamine Zeroual, au pouvoir entre 1994 et 1998, s'en prend aujourd'hui violemment à Abdelaziz Bouteflika. Il met en cause la capacité physique du président à gouverner le pays et il fustige la révision de la Constitution qui a aboli toute limitation de mandat. L'alternance au pouvoir, écrit-il, a pour objectif de consolider la solidarité, la cohésion nationale et la stabilité, des concepts qui sont répétés sans cesse par les pro-Bouteflika. Alors que sur les réseaux sociaux, des officiers anonymes sortent de leur réserve protestant contre un quatrième mandat, Lamine Zeroual insiste sur la nécessaire unité de l'armée face à ce qu'il appelle une crise de confiance structurelle. Enfin, si Lamine Zeroual n'envisage pas de s'engager dans l'élection à venir, cette lettre est étonnamment virulente selon la presse. Il est étonnant de déceler des menaces par la voix si réservée et prudente de l'ancien président, écrit un journaliste d'El Watan, qui poursuit. Il prévient clairement que la patience des Algériens a des limites.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez évidemment à nous écrire. Un salut aujourd'hui à Fiacre Gabiro à Bangui, fidèle parmi les fidèles auditeurs de votre émission, écrit-il. Je lance un appel de paix à mes compatriotes centrafricains. Nous devons cesser de nous entretuer, chrétiens et musulmans, pour relever ensemble le défi de notre cher pays, la RCA, car s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble, écrit-il. Bonjour à Boubacar Yassine Diallo, grand reporter, ancien ministre de la Communication en Guinée-Conakry. Bonjour à Patrick, c'est avec un grand plaisir que j'écoute RFI, écrit-il, et vous écrit depuis mon petit et beau village Songdong, où je passe mes congés. Je déplore le fait que nos dirigeants camerounais ne puissent pas nous donner le minimum pour notre survie, c'est-à-dire l'eau, et me demande à quoi servent-ils. Alors, je salue mon brave papa Guillaume alias Piccadilly sur place ici, écrit toujours Patrick, et j'embrasse toutes les nouvelles mamans du monde, en particulier ma très sympathique petite sœur Émilie et ma très jolie nièce Irine qui aura un mois ce samedi 22 à 10h46 pile, toutes deux à Douala. Bon anniversaire donc à Irine.
Une semaine d'actualité.
Et nous sommes toujours en compagnie de Pierre Conessa qui vous avez écouté avec attention ce volet africain de l'émission. Un mot sur l'Algérie, cette situation très tendue qui se dessine avant l'élection.
Avant d'aborder l'Algérie, je voudrais revenir sur un sujet qui me tient à cœur, qui est le problème de la corruption internationale. Le cas du Sénégal.
Un vaste sujet.
Oui, c'est un vaste sujet parce que j'ai essayé d'écrire sur le problème des dictateurs déchus, c'est-à-dire est-ce qu'on pouvait récupérer l'argent des dictateurs déchus. Vous savez que c'est malheureusement triste, mais on n'a plus d'argent pour aider les nouvelles démocraties. Si au moins on leur rendait leur argent, ce serait déjà quand même un geste éthique qu'on pourrait saluer. Bon. Le cas du Sénégal me paraît particulièrement intéressant, puisque vous savez que le fils de Abdoulaye Wade a été mis en accusation pour avoir détourné 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. C'est-à-dire à l'échelle du Sénégal, on imagine quel était le niveau de corruption atteint par le fils de ce président qui s'était lui-même présenté comme un grand réformateur. Or, moi, le constat que je fais, c'est que beaucoup des dictatures qu'on a tolérées pendant l'époque de la guerre froide correspondent aujourd'hui à des États faillis, c'est-à-dire des États qui se sont écroulés. Parce que la corruption plus la dictature a abouti à dénaturer toute idée d'État. Et que vous regardiez la Somalie, que vous regardiez le Soudan, que vous regardiez la Libye, que vous regardiez la Syrie...
Et dans une certaine mesure l'Ukraine.
Et dans une certaine mesure l'Ukraine, absolument. Toute idée même d'État, d'impôt, de contribution, légitime contribution des citoyens à l'entretien de la vie publique, tout ça fait que les régimes s'écroulent. Et donc on a joué avec la corruption comme si c'était une simple question économique, alors que c'est une véritable question de sécurité internationale. Donc ça me paraît un sujet qui est malheureusement maltraité, c'est-à-dire qu'encore une fois, on préfère garder les paradis fiscaux. Il y en a une cinquantaine dans l'Union européenne, donc probablement ça doit rapporter de l'argent.
Même si les choses changent, semble-t-il,
ça change. Le jour où on prendra le Liechtenstein, comme je l'ai proposé, c'est-à-dire par une attaque militaire, puisque l'Europe de la Défense...
Vous avez proposé ça ?
Oui, j'ai proposé... que l'Europe de la Défense se consacre à faire disparaître le Liechtenstein, puisque finalement, c'est d'abord un objectif à l'échelle de l'Europe de la Défense, puisqu'on n'en a pas beaucoup, quand même. Et puis, d'autre part, on y découvrira probablement beaucoup d'argent qui a été détourné soit par des contribuables allemands, soit par des anciens nazis, puisqu'on retrouve encore des œuvres juives là-bas, etc.
Donc, votre passage au ministère de la Défense n'est pas passé inaperçu,
C'était après, quand je me suis occupé des dictateurs déchus. Parce que, encore une fois, on est dans une position de donneur de leçons perpétuelles, en expliquant que les îles Caïmans, les Tuvalu, etc., c'est pas bien. Mais on a une cinquantaine de paradis fiscaux en Europe, une cinquantaine. Pourquoi ne commence-t-on pas à balayer chez nous ? Ça serait tellement plus simple. Et on trouverait probablement des choses très intéressantes qui feraient qu'un certain nombre de pays récupéreraient l'argent qui leur a été volé. Donc ça, c'est mon moulin à vent de Don Quichotte. Pour ce qui concerne la Cour pénale internationale, encore une fois, je comprends les auditeurs africains qui s'étonnent qu'une fois de plus, ce soit un Africain qui soit déféré devant la Cour pénale internationale, alors qu'évidemment, tous les grands dirigeants de la planète, à commencer par George Bush ou par Poutine, n'y seront jamais, puisqu'ils n'ont pas ratifié la Cour pénale internationale.
Et l'Algérie, alors?
Et l'Algérie, alors, malheureusement, que voulez-vous? Le mépris des dirigeants à l'égard du peuple algérien est absolument étonnant. Quand on pense que Abdelaziz Bouteflika est venu se faire soigner en France. Et je me suis demandé pourquoi il est venu se faire soigner en France, mais j'ai compris pourquoi, parce que nos médecins du Val-de-Grâce sont capables de mentir sur l'état de santé de nos présidents de la République, donc il n'y a pas de raison qu'ils disent la vérité à propos de la situation d'Abdelaziz Bouteflika, qui est probablement grabataire aujourd'hui. Puisque ça fait 6 mois qu'il n'a reçu aucun ambassadeur qui veut présenter ses lettres de créance. Donc c'est un homme qui est dans un état d'affaiblissement absolu. Et donc l'équipe autour de lui, quelle est-elle exactement ? Est-ce son frère ? Est-ce les proches ? Etc. prépare la réélection d'un grabataire pour que rapidement... Alors probablement il y aura proposition d'un vice-président, histoire de faire la transition. Mais vous vous rendez compte qu'on a aujourd'hui au pouvoir en Algérie des gens qui sont à peu près de la génération, disons, de Félix Gaillard, si on devait prendre des échelles de Français, c'est-à-dire un homme politique de la 4e République. Alors que la population est très jeune et n'a pas connu la guerre d'indépendance. C'est-à-dire que toute la légitimité tirée de la guerre d'indépendance, c'est complètement éteinte parce qu'encore une fois, ces jeunes veulent du travail, veulent du boulot, veulent des conditions de vie. Et on leur oppose continuellement la lutte héroïque des anciens martyrs.
Mais les observateurs semblent dire qu'il y a des luttes de tendance au sein du FLN et que même au sein du régime, ça grince beaucoup après cette candidature.
Oui, ça grince beaucoup, mais si vous voulez, on fait sur l'Algérie comme on faisait avec la criminologie, c'est-à-dire qu'on suppose qu'il y a des tendances qui s'affrontent, etc. Mais il reste que la machine est totalement en place et qu'encore une fois, le niveau de corruption est toujours aussi important. Il n'y a jamais eu un procès en corruption en Algérie, on n'a jamais attrapé quelqu'un. Et encore une fois, on est dans une situation où ce pays va affronter dans les pires conditions les épreuves à venir. Dès qu'il y a une baisse du pétrole, ça provoque une crise en Algérie. Et on s'étonne que les islamistes poussent en Algérie, mais que voulez-vous aujourd'hui faire dans la vie politique si ce n'est faire une opposition ?
Avec le franc-parler qui est le vôtre, les auditeurs l'auront constaté une fois de plus. Pierre Conessa, vous quand même vous interrogez dans ce livre très impertinent, surtout ne rien décider, sur l'avenir de la France. Vous parlez même de dépendance cataleptique de la société française à l'égard de l'État, justement, on revient à l'État. Est-ce une polyarthrite ou une sclérose en plaques, vous demandez-vous à propos de notre état de santé ? Dites-moi, l'alternative n'est pas très, très gaie. Et s'agit-il même d'une décadence ?
Écoutez, moi, c'est une conclusion à laquelle je suis arrivé à la fin de l'écriture de mon livre, parce que toute la partie comique, si vous voulez, était dédiée à la vie politique.
Oui, alors je précise que vous imaginez d'ailleurs un jeu.
Si vous voulez, ce livre, je l'ai écrit pour les futurs politiciens, c'est-à-dire je leur apprends toutes les techniques pour ne pas décider. Donc, vous savez, le rapport d'investigation, la saisine d'une haute commission, etc., la subvention. Bon. Il y a donc tout un certain nombre de techniques qu'il faut bien maîtriser, si vous voulez, si on veut survivre. L'homme politique le plus célèbre, ou en tout cas le plus populaire en France, reste Jacques Chirac, et il est totalement impossible d'associer son nom à une quelconque réforme de la société française. Donc, il y a un côté paradoxal qui m'a beaucoup intéressé, et par contre, je m'aperçois que François Hollande, qui finalement a même le même bilan, c'est-à-dire aucune des réformes essentielles, gagne beaucoup moins en popularité. Donc, il y a bien une technique, et c'est cette technique qui m'a intéressé. Quand je suis arrivé à la fin de ma rédaction amusante, si vous voulez, sur les hommes politiques, je me suis quand même posé cette question de fond, en tant que citoyen français, c'est-à-dire est-ce que finalement, le corps électoral ne recherche pas les hommes politiques qui les lient ? D'abord, il y a toujours un signe inquiétant, c'est qu'effectivement, des hommes politiques condamnés pour corruption et quelques années d'interdiction de droits civiques se retrouvent quand même élus. Mmh. On a quand même quelques exemples célèbres.
Des réélections célèbres, oui.
Et donc, on se dit, après tout, taper dans l'argent public n'est peut-être pas une faute si grave. Et deuxième chose, on se rend bien compte que, encore une fois, les hommes politiques qui veulent faire des réformes sont des hommes politiques qui ne se font pas réélire. Et donc, la conjonction, si vous voulez, de cette médiocrité des corporatismes pose une question de fond, c'est-à-dire est-ce qu'on est engagé dans une phase de décadence ? Il y a quelque chose un peu comme ça, parce que, si vous voulez, c'est ces époques qu'ont vécu l'Empire d'Autriche-Hongrie, la Venise du XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on vivait sur les acquis de la période de gloire. Et puis, on se racontait que le monde entier avait les yeux tournés vers soi, puisqu'effectivement, notamment des politiques culturelles formidablement vives, si vous voulez. Et puis, en fait, la maison était vide, quoi. On avait vendu tous les meubles. Plus personne ne produisait de la richesse. Et c'est un peu la situation de la France aujourd'hui. Donc, je suis assez désespéré, je dois le dire. Mais peut-être suis-je trop cynique.
C'est un pessimisme, peut-être.
Peut-être, effectivement. Il reste plus que l'humour.
Les choses finiront par s'arranger.
Oui, rien n'est absolument désespéré, je suis d'accord avec vous.
Merci Pierre Conessa. Surtout ne rien décider, manuel de survie en milieu politique avec exercice pratique corrigé. On peut le lire avant d'aller voter demain, par exemple.
Absolument.
Puisque rien n'est désespéré.
Absolument. Et donc je conseille aux hommes politiques le sondage que j'ai mis à la fin, effectivement, qui permet d'être utilisé en toutes circonstances, puisqu'il ne donne aucune indication significative et donc permet soit d'arrêter une proposition de réforme, soit au contraire d'expliquer qu'il faut faire autre chose. Et donc, il y a un certain nombre d'outils très...
Ça leur sera utile.
Très utile, oui, absolument.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky, à suivre aussi sur le site de la radio, www.rfi.fr. Je vous retrouve demain dimanche pour le magazine Idée, et nous parlerons des droits de l'homme, et plus précisément du culte des droits de l'homme, pour reprendre le titre de l'essai de notre invitée, Valentine Zuber, historienne, professeure à l'école pratique des hautes études. Nous parlerons de l'élaboration de la Déclaration des droits de l'homme, de sa diffusion dans le monde et de son caractère « sacré », entre guillemets. Ce texte serait-il la base d'une forme de religion civile dans la République ? Je me tourne vers vous avec cette question. Pierre Conessa, vous y répondrez à un autre moment. France, pays des droits de l'homme, dit-on demain dimanche, 17h10, heure de Paris, et sur le site www.rfi.fr. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.